La poésie, alors, moi j'attendais de vous, Philippe Solers, une plaquette d'une vingtaine de poèmes, et ça aurait été un événement, et vous publiez un roman.
Oui,
Passion fixe.
Oui, parce que je veux faire sentir, à travers le roman, pourquoi on ne peut pas écrire de poèmes. Et pour défendre la poésie...
Tout en citant quelques-uns au passage.
C'est un acte, encore une fois, polémique. C'est-à-dire, je veux décrire la situation de la société où nous sommes, où la poésie est devenue quelque chose d'absolument impossible, sauf à la vivre, d'une certaine façon. Et ça se raconte. Ça n'est pas la peine de faire des poèmes d'un côté et de vivre autrement qu'en poésie. J'essaye de raconter par le roman comment on peut habiter poétiquement en ce monde, comment on peut se conduire poétiquement. Et pour ça, il me faut, en effet, des passions. Vous avez entendu la passion de Bartoli. Il me faut quelque chose comme de la flamme vraiment une passion érotique, réelle. Voilà. Les poèmes sont pas à la mesure du désir. La musique savante manque à notre désir. Voilà, il faut retrouver. Il y aura peut-être des poèmes un jour qui seront grandioses. Pour l'instant, je ne les vois pas et j'écris des romans, non pas pour m'en consoler, mais pour essayer de tenir cette ligne démonstrative.
Donc vous attribuez encore une force à ce vieux genre littéraire, le roman.
Bien sûr, oui, mais il y a des gens qui vous diront que ça n'est pas un vrai, que c'est pas comme ça qu'on fait des romans, que
ce
n'est pas fabriqué comme un roman, que ça veut dire s'il n'écrit pas de roman.
C'est un vrai roman.
Mais oui, c'est un roman comme je le conçois moi, et non pas comme le produit préfabriqué que vous avez partout dans les librairies en général. C'est-à-dire, on vend des romans. Je me moque de la fabrication. Des romans, ça tient pas le coup. Moi, j'essaye que ça tienne le coup d'une autre façon.
Il y a un mot que vous employez souvent pour légitimer, au fond, le roman, c'est l'expérience.
Oui. Mais ça se sent, ça, vous savez, tout de suite. En réalité, c'est une voix, le roman. C'est une voix qui peut conjuguer des voix multiples, mais c'est une voix. Vous entendez quelqu'un, vous ouvrez un Beckett, vous avez la voix de Beckett, qu'on n'a pas enregistré, mais vous ouvrez Joyce, vous avez la voix de Joyce. Alors, est-ce que c'était un roman? C'est un roman monstrueux, Ulysse. Ce matin, il y a un portrait de John Irving, fabricateur de romans. Vous avez ça dans Libération. Et vous, à la fin, le type lui demande, et alors, Ulysse de Joyce, qu'est-ce que vous en pensez? Et l'autre réponse, c'est bullshit, c'est de la merde. Bon, c'est fait pour les étudiants, je ne suis plus à l'université. C'est monstrueux, comprenez, c'est monstrueux qu'on puisse dire une chose pareille.
Quand on lit Passion fixe, on a l'impression que ça coule au fil de la plume. Et en fait, le fil est plutôt à retordre. J'imagine que c'est le film de l'équilibriste, avec sa bonne dose de risque. Puisque c'est plein de ruptures aussi, de chutes. Hein, ouais. La difficulté est maximum. Et l'enjeu, c'est seulement raconter.
C'est raconter la façon dont on peut vivre poétiquement. Mais ça, c'est une corde raide, mais il faut le prouver. Je n'ai pas l'impression de prouver que ce que je suis en train de vivre si j'écris un poème. Voilà. C'est très simple. Je veux que ce soit en situation, avec une expérience physique, des relations qui m'intéressent beaucoup entre hommes et femmes, parce que je crois qu'il y a là un très gros tabou, malheureusement, invisible, comme si tout se passait bien, alors que c'est pas ça du tout. Et comment est-ce qu'on peut faire avec cet interdit-là? Il n'y a pas de chose plus refoulée, à mon avis, que les relations subtiles, insidieuses, tendues, détendues, asociales, fondamentalement asociales, qui peuvent se nouer entre un homme et une femme. C'est immédiatement... Si rencontre il y a, qui est finalement assez rare, il peut y en avoir plusieurs, si rencontre il y a immédiatement quelque chose qui échappe au contrôle social. Et donc, c'est très mal ressenti, parce que ça se sent, ça se devine. Et ça va au contraire de tout ce qui est prôné par la publicité, la littérature, les romans, le cinéma, etc. C'est très très rare, la rencontre et ce qui va s'en suivre. C'est-à-dire, quand même, quelque chose qui prendra la forme d'un roman, qui pourra raconter éventuellement la poésie. extrême qui se dégage de cette expérience très intime.
Mais vous, Philippe Solers, vous parlez du roman comme voie vers le dépassement de la métaphysique, pas dépassement de la poésie.
Non, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait retenir l'attention dans toute l'œuvre de Heidegger, par exemple. Le dépassement de la métaphysique, c'est quoi? C'est l'acheminement à la parole, faire arriver la parole à elle-même en tant que parole. Et sur quoi il s'est appuyé, ce penseur du dépassement de la métaphysique, ignoré comme tel, parce que personne ne parle de son œuvre gigantesque après la guerre, comme par hasard.
Il faut dire qu'il a quelques ennemis. Hein.
Oui, c'est ça. Mais c'est très intéressant. Parce que comme ça vient tout le temps, comme une réitération de du même stéréotype qui a été analysé 10 fois, et on peut le réanalyser tant qu'on veut, mais comme il n'y a que ça à propos de Heidegger, ça m'intéresse beaucoup, parce que sur quoi Heidegger s'est-il appuyé, sinon précisément pour penser sur la poésie, Hölderlin, c'est un livre absolument magnifique, sans parler du Nietzsche. Alors là, une telle animosité me paraît davantage désigner ce qui gêne, c'est-à-dire penser sous forme poétique, c'est-à-dire en tant que la poésie, on établit un dialogue avec elle. C'est ça qui... Vous voyez, on organise la misère de la poésie pour empêcher qu'elle puisse se traduire en pensée ou en récit. C'est là où...
Il y a quand même eu quelques éclats dans l'autorité du philosophe.
Oui. Oui, mais ça n'est, on est plus dans la philosophie déjà, là. On est dans une autre expérience. Et c'est... Comment dire... La poésie doit surgir des moindres choses, enfin de la vie courante, de la moindre expérience. Je crois que les livres que j'écris en sont pleins de ces petits micro-événements. De boire un verre d'eau à 4 heures du matin, de marcher à quatre pattes dans un couloir parce qu'on est un peu abruti ou de... Il faut raconter des expériences, de hashish ou des expériences érotiques. C'est pour ça qu'il y a aussi... Je crois que Bataille a dit les choses essentielles aussi là-dessus. C'est-à-dire dans une solitude quasiment effrayante à la fin de sa vie. Haine de la poésie est un livre splendide. Haine de la poésie, ça veut dire un amour extrêmement violent de la poésie, mais haine de ce qui se prétend poésie. L'amour de la poésie doit venir d'une haine profonde pour tout ce qui usurpe cette position. Et Dieu sait qu'elle est usurpée et qu'elle est prébordisée pour l'être. Enfin, c'est très très... C'est une chose que je ressens profondément.
Si on disait un mot de la forme de Passion fixe, parce que bon, le livre est organisé en plusieurs chapitres, composés chacun de fragments.
Ce sont des paragraphes. Ça commence par un récit de forme classique, presque comme un roman policier. Puis ça continue avec des rencontres. Et puis tout à coup, il y a des preuves qui arrivent comme ça dans le discours. Le type se trouve dans une maison de campagne emmené par une avocate qui s'appelle Dora, qui possède une grande bibliothèque de manuscrits anciens. Et donc, les livres se mettent à... C'est des livres qui commencent à lui parler, à lui. Mmh. C'est pas lui qui lit des livres. Les livres s'ouvrent comme par magie, et les passages conviennent, vous voyez. C'est-à-dire, il tire un livre, c'est Cyrano de Bergerac, et Cyrano de Bergerac, brusquement, se met à vivre. Et... voilà, c'est comme ça que ça se passe pour moi. La bibliothèque est aimantée, c'est un champ magnétique, et brusquement, on trouve, on ne cherche pas.
Vous écrivez avec ce que vous avez sous la main.
Oui, non, j'écris avec tout ce qu'il est possible de faire venir comme preuve. Il faut pas, ce ne sont pas des citations.
Il y a des citations,
il y a aussi des citations.
Qui
sont utiles, disait Debord. Oui, on les reproche parce qu'on ne sait pas les lire, parce qu'on ne voit pas pourquoi elles sont choisies de façon aussi pertinente, de façon tellement plus pertinente, disait Debord, de façon amusante, que ne pourrait le faire un ordinateur. C'est le reproche que fait, à travers les individus, le reproche, en effet, est un reproche que m'adresse l'ordinateur, à travers les personnes qui disent qu'en effet, il y a des citations. L'ordinateur ne pourrait pas combiner une telle pertinence parce que pour choisir, pour que ça vienne, il faut un choix extrêmement au scalpel, c'est vraiment de la microchirurgie, il faut que ça vienne, vous comprenez, c'est ça le problème. Alors c'est Debord, oui, qui dit que ben évidemment dans les époques d'ignorance ou de croyances obscurantistes, c'est-à-dire la nôtre, d'ignorance, d'illettrisme et de croyances obscurantistes, ben les preuves, les citations sont nécessaires. Parce qu'on doit prouver des choses. Et vous savez quel virtuose, je l'admire beaucoup pour ça, quel virtuose c'était pour savoir choisir pertinemment les citations qui échappent au contrôle de l'ordinateur.
Donc
c'est bien mon problème.
Comme dossier d'instruction d'un
procès. Oui, c'est une plaidoirie.
Définitif. Et justement, oui, c'est pour ça que l'héroïne est une avocate.
Le roman est une plaidoirie. D'ailleurs, c'est pour ça que le personnage féminin est une avocate. Donc, c'est-à-dire, ça se présente en défense. C'est en effet aussi, pas seulement.
Une avocate, c'est-à-dire quelqu'un dont le rôle consiste à montrer que son client est innocent et non pas coupable.
Voilà, c'est ça. J'aime beaucoup cette anecdote. C'est Truffaut interrogeant Hitchcock à propos de I Confess, c'est-à-dire à propos de tous ces films. Il dit, voyons, est-ce que votre éducation n'a pas pesé sur vous ce sentiment du péché qu'on a dans votre œuvre? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas là un vieux fond catholique, anglais, un élève des jésuites, Hitchcock? J'adore ce type au cinéma, pour des tas de raisons. Et alors, Hitchcock lui répond, mais comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je passe mon temps à faire des films pour montrer un homme innocent dans un monde coupable. Et c'est vrai, si vous regardez tout les films d'Hitchcock, vous avez un personnage brusquement jeté dans une situation absurde, où on essaye de le tuer, dans North by Northwest, par exemple, avec Cary Grant, qui est admirable, des passages fameux. C'est quelqu'un qui est jeté dans un monde où on le prend pour quelqu'un d'autre, où on l'accuse de on ne sait trop quoi, etc. Et alors le film se déroule, voilà. Donc l'important, c'est de montrer que le monde est coupable et qu'il peut y avoir des innocents. Mais c'est le monde qui est blâmable, ce ne sont pas les innocents.
Mais alors là, l'histoire est située après 68, après les événements.
Oui.
Et donc il y a un certain décalage par rapport à l'époque actuelle, une trentaine d'années. Mm-hmm. Et votre héros a, lui, 23 ans. Hein. Mm-hmm. Mais c'est étrange parce qu'on lui en donne plus.
Oui.
On lui en donnerait facilement 40 de plus.
Oui, c'est ça. Ben, ça prouve qu'il n'a pas vieilli. C'est ça que vous voulez dire.
Par exemple, il a, juste après 68, il a connaissance du Viagra qui pense.
Oui, ça n'a pas tellement d'importance. Ouais. Hein. C'est pas. Parce que si c'était 68, la barbe, 68 tard, etc. Non, il s'agit d'une situation générale. C'est-à-dire, bon. Pour faire l'histoire des 30 dernières années, on va pas la faire sur des détails d'actualité. On va la faire selon la sensation plus ou moins grande qu'il y a ou pas de liberté. Je prétends, je ne suis pas le seul, qu'il y a eu une très grande explosion de liberté dans ce qu'on appelle 68, que le spectre agite encore des peurs diverses. On essaye d'oublier. Et que, à partir de là, bien, il y a eu une régression. Je trouve qu'on est dans une société de conformisme aggravé et de surveillance néfaste.
Oui, ça, vous le dites.
Voilà, je le dis, je le répète.
Et cet homme, donc ce narrateur, il a à peu près l'âge que vous aviez quand vous avez créé Tel Quel.
Oui, c'est ça.
Sauf que c'était un peu avant, c'était au début des années 60.
Ce narrateur peut reprendre un certain nombre de choses qui me sont arrivées, qui n'étaient pas forcément visibles. Donc, ça me permet de... Vous savez, je peux prendre dans mon enfance, je peux prendre dans mon adolescence, je peux prendre au début de quand j'avais 20 ou 30 ans. Voilà, c'est ça qui est beau.
Il y a beaucoup de choses du Philippe Solers d'aujourd'hui. Ce marmonnement là, ce marmottement.
Oui, mais je crois que j'étais déjà comme ça. Oui, enfin, je vois pas qu'il y ait beaucoup de changements. Moi qui suis censé changer tout le temps, la cohérence me paraît fondamentale, c'est-à-dire toujours revenir à des points d'expérience précis. Voilà.
La fluidité dont je parlais de l'écriture,
oui.
Ça demande beaucoup de travail. Ça vient pas comme ça.
C'est les deux. Il faut que ça vienne, et en même temps, ça c'est, vous savez, vous avez mis combien de temps à faire ça? Mais 3 ans, mais enfin aussi, je ne sais pas, comme vous voyez, je n'adhère pas à l'idée de la page blanche, de l'angoisse, de c'est difficile d'écrire, Non, je crois que c'est pas comme ça, parce qu'encore une fois, comme c'est très lié à la façon de vivre, si la façon de vivre est souple et fluide, si elle est acrobatique pour essayer d'échapper en effet à l'usure qu'on veut vous faire subir, ben, ce qu'on va écrire va être comme on fait, quoi, comme on fait dans la vie.
En 75.
Si la vie est pesante, si la vie est inhibée, si la vie est traîne les pieds, ben ça va se sentir dans la façon dont on écrit. Mmh.
Vous disiez en 75 à David Eman, donc dans un entretien repris dans Vision à New York, avancer, c'est écrire 10 lignes de plus. Et dans l'année du Tigre, c'est-à-dire en 98,
je suis en train d'écrire Passion fixe, là.
Voilà. Plus de 20 ans plus tard. Vous notez un jour, 10 lignes de plus dans mon roman, une grande journée, donc.
Oui,
donc vous n'avez pas fait de progrès.
Aucun. Ou alors, on peut dire que le fait de maintenir toujours cette passion fixe-là, c'était d'ailleurs finalement le mot de Barthes à mon sujet, là, quand il a écrit ce texte si gentil sur moi, mais il est bizarre ce solaire, c'est vrai, comme ça. Et alors s'il écrit 10 lignes, il est content. Hein, faut-il être absurde ? Mais disons les choses, c'est une drogue puissante. Mmh. C'est la meilleure que j'ai trouvée en tout cas.